Et le journal est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les tensions politiques entre Madrid et Barcelone se transfèrent-elles sur le plan économique ? Madrid légifère pour faciliter le transfert des sièges sociaux d'une région à l'autre. Quant aux indépendantistes, ils reculent d'une journée la session du Parlement prévue initialement lundi pour déclarer l'indépendance. Élément de compréhension avec Mathieu de Taillac au début de ce journal. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN, reçoit le prix Nobel de la paix, 9e fois dans l'histoire qu'un acteur engagé dans cette lutte et récompensé. Pourtant, toujours près de 15 000 armes en circulation. Emma Sarango va nous expliquer ce qui freine. Au palais de justice de Paris, une peine sévère pour Christine Rivière, la mamie Djihad, est condamnée à 10 ans de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Explication à suivre d'Antoine Marette. La République en marche, enquête d'identité et d'une organisation plus ambitieuse. Pas évident de sortir de l'ultra-personnalisation d'Emmanuel Macron. Analyse de Stéphane Robert dans un instant. Enfin, l'enquête du journal de 18h, alors que Renault annonce son nouveau plan pour développer la voiture électrique. Gros plan sur le fabuleux marché des batteries électriques. Enquête signée Philippe Reltien à la fin de ce journal. Assiste-t-on ce soir à un apaisement dans les relations entre Madrid et Barcelone, presque une semaine après le référendum d'autodétermination catalan contesté par les autorités espagnoles? Les dirigeants sécessionnistes entendus par la justice de Madrid sont sortis libres ce matin du tribunal et aucune mesure de contrôle judiciaire a été prise contre eux. Par ailleurs, le préfet de Barcelone s'est excusé au nom des policiers qui sont intervenus parfois brutalement dimanche dernier. Du côté des indépendantistes, Carles Puigdemont, le président de la Généralité catalane, repousse son intervention devant le Parlement catalan à mardi. Bonsoir Mathieu de Taillac. Vous êtes Bonsoir. Notre correspondant en direct de Madrid. Carles Puigdemont avait prévu de déclarer l'indépendance unilatérale de la région lundi. Comment comprendre ce décalage d'une journée ?
Bien, il y a là un tour de passe-passe juridique. Au départ, la séance parlementaire, effectivement, a été convoquée pour lundi prochain. Et en fait, elle s'inscrivait dans le cadre de la loi sur le référendum, loi qui avait été suspendue par la Cour constitutionnelle. Du coup, cette même Cour avait aussi suspendu la session de lundi, car elle considérait que c'était une continuité du référendum et qu'elle pouvait servir à déclarer l'indépendance. Mais en demandant à s'adresser au Parlement mardi, le président catalan, Carles Puigdemont, suit cette fois-ci la voie normale prévue par le règlement ordinaire du Parlement. Il n'a pas précisé ses intentions, mais on le soupçonne fortement de vouloir déclarer l'indépendance, ou peut-être de trouver une formule intermédiaire. On parle en Catalogne d'une déclaration à effet différé qui lancerait par exemple un processus constituant de plusieurs mois, sauf que les indépendantistes les plus radicaux, eux, ne veulent rien lâcher. Il y a donc un débat sur la formule adoptée entre les différentes composantes de la famille indépendantiste.
Pas d'apaisement donc, Mathieu, on l'entend, et d'autant plus que le conflit prend un tour économique avec ce décret adopté aujourd'hui par Madrid, décret qui simplifie la procédure pour les entreprises qui voudraient changer l'adresse de leurs sièges sociaux.
Oui, ce décret, c'est la porte ouverte au déménagement des sièges sociaux. Le texte établit que la décision de l'adresse du siège social revient par défaut au conseil d'administration. Les entreprises comme CaixaBank, par exemple, dont les statuts prévoient un vote de l'Assemblée Générale, eh bien, ces entreprises sont libérées de cette obligation. C'est même plus poussé que ça. Si vraiment elles souhaitaient que l'Assemblée conserve cette faculté, elles devraient réformer leur statut. Autrement dit, les entreprises pourront décider d'un changement de siège en quelques heures, plutôt que se tenir à une longue procédure pour convoquer une Assemblée Générale des actionnaires et gagner le vote. Alors, le ministre de l'économie, Luis de Guindos, en annonçant ce décret, n'a pas dissimulé son objectif d'aider les entreprises à quitter rapidement la Catalogne. Et l'effet n'a pas traîné. On a appris aujourd'hui le départ de grandes entreprises emblématiques. Gas Natural, c'est une très grande entreprise du secteur énergétique. Elle passe de Barcelone à Madrid. Et puis, dans un autre domaine, Freixenet, c'est le plus grand producteur de cava, vous savez, c'est le champagne local. Freixenet devait réunir cet après-midi son conseil d'administration.
Merci Mathieu de Taillac pour vos précisions. Vous étiez en direct de Madrid. Au moment où les États-Unis menacent de remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, où les invectives entre Donald Trump et Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, font trembler le monde entier, c'est un signal venu d'Oslo, le prix Nobel de la paix attribué ce matin à une coalition d'ONG anti-nucléaire, l'ICAN, pour campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, une campagne qui avait permis l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique au mois de juillet dernier. Le secrétaire général de l'ONU, l'ONU, Antonio Guterres s'en est félicité. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'un monde sans armes nucléaires, a-t-il déclaré sur Twitter. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui était aussi pressentie pour le Nobel, a dit partager les objectifs de l'ICAN. Et puis réaction positive également de survivants des bombardements atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. Bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
C'est donc un concert de louanges, mais à regarder l'histoire du Nobel de la paix. Ce n'est pas la première fois que les détracteurs des armes atomiques sont primés, c'est même la 9e fois aujourd'hui. Et pourtant, ce soir, l'OTAN estime que les conditions ne sont toujours pas favorables à un désarmement. Emma, ça veut dire finalement que c'est mission impossible encore aujourd'hui ?
En tout cas, ces réactions contradictoires au prix Nobel, elles illustrent parfaitement le dilemme, la schizophrénie presque sur cette question de la dissuasion nucléaire entre déclaration d'intention et politique d'action, entre utopie et réalisme. Et le réalisme, selon l'OTAN et selon aussi les experts stratégiques, c'est admettre qu'aucune des puissances nucléaires n'acceptera un désarmement absolu et total, tout simplement parce que la confiance n'est pas la première des vertus des relations entre États et donc aucun dirigeant n'aura la certitude que les autres jouent le jeu, que les autres ne trichent pas en enfouissant des têtes nucléaires dans le Nevada, en Sibérie ou dans un désert chinois. C'est la raison pour laquelle aucune des 9 puissances nucléaires n'a signé le traité pour lequel l'ICAN est récompensé aujourd'hui. Le Quai d'Orsay l'avait d'ailleurs parfaitement assumé. Le désarmement ne se décrète pas, il se construit.
Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a au moins une volonté, une intention, même à long terme, de la part de la France et des autres puissances nucléaires ?
Alors c'est ce qui est affirmé effectivement officiellement au ministère des Affaires étrangères, qui met en avant des mesures concrètes en vue du désarmement. La première, c'est la réduction de moitié de l'arsenal nucléaire français avec le fameux credo de stricte suffisance. C'est vrai, sauf qu'avec 4 sous-marins et 32 rafales équipés de missiles, notre arsenal est en capacité de détruire l'équivalent de la France. Deuxième mesure vantée par le Quai d'Orsay, c'est l'arrêt de la production de matières fissiles. C'est vrai aussi, sauf que cette matière qui sert à la fabrication des armes nucléaires a une durée de vie extrêmement longue et la France en a une grosse quantité en stock. Enfin, on se félicite d'avoir arrêté les essais nucléaires, mais les simulations, elles, se poursuivent dans les laboratoires. Conclusion, la dissuasion nucléaire reste la clé de voûte de la sécurité en France. Cette expression n'est pas la mienne, c'est celle d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. C'est dire toute la difficulté de la tâche qui incombe désormais au tout nouveau prix Nobel.
Merci Emma Sarango pour vos explications. Une semaine après la découverte de bonbonnes de gaz équipées d'un dispositif de mise à feu dans le 16e arrondissement de la capitale, le procureur de la République de Paris, François Molins, va démarrer d'une minute à l'autre une conférence de presse. 6 suspects, dont 2 fichés pour radicalisation, sont en garde à vue pour les besoins de cette enquête antiterroriste. C'est un habitant de la capitale qui avait donné l'alerte après avoir découvert le dispositif dans le hall de son immeuble. Par ailleurs, la première semaine du procès d'Abdelkader Merah se termine devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'islamiste toulousain est soupçonné d'avoir été le complice des crimes de Mohamed Merah. 7 morts en mars 2012, 3 militaires et 4 membres de la communauté juive, dont 3 enfants. Cet après-midi, c'est l'ancien patron du RAID qui était à la barre. Le RAID dont l'unité d'élite policière avait mis fin au retranchement de Mohamed Merah en 2012. Compte rendu signé Florence Turme.
Grande silhouette élancée, chemise blanche et costume sombre, le teint hâlé, Amaury de Hot Clock raconte, droit et précis, l'intervention du RAID et les 32 heures qui ont précédé l'assaut final et la mort du terroriste. Mohamed Merah va blesser 4 fonctionnaires, faire semblant d'accepter une discussion pour mieux se reposer, livrer le récit incroyable de son parcours, ouvrir à nouveau le feu et tomber sous les balles des snipers. N'y avait-il pas d'autre moyen de le neutraliser ? La question revient, presque identique, parfois accusatrice, chez tous les avocats de la partie civile. Le témoin y répond avec la même fermeté, non, définitivement non, jusqu'au bout du bout du bout, je l'ai donné sa chance à une reddition. C'est lui qui a choisi la mort, je ne crois pas qu'il avait peur, il était simplement curieux. La défense insiste à son tour et vous ne regrettez rien. J'y ai passé 32 heures, les événements tragiques qui ont frappé la France montre que lorsqu'un individu a décidé de mourir, il est impossible de faire autrement. L'audience se termine sur ces mots, mais de cette nouvelle journée de tension, la salle gardera surtout en mémoire le témoignage poignant de cette jeune militaire de 30 ans, amie d'enfance de Mohamed Leguade, tombée sous les balles de Merah. Le regard et la voix brisés au bord des larmes, c'était, dit-elle, mon frère, mon ami, mon confident, c'est grâce à lui que je suis devenue la femme que je suis, courageuse et loyale. Dans le box des accusés, Abdelkader Merah ne elle n'a pas quitté des yeux sans manifester une quelconque réaction.
Compte rendu d'audience signé Florence Turm. Dernière journée également du procès de la mamie djihad, Christine Rivière, 51 ans, qui a rejoint à 3 reprises son fils djihadiste en Syrie. C'était en 2013 et 2014. Une femme qui était poursuivie pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes. La condamnation est tombée cet après-midi. Elle est sévère. 10 ans de prison avec une période de sûreté des 2/3. Antoine Marette.
10 ans de prison, une peine très lourde, la peine maximale, celle qui était réclamée par le procureur. À l'énoncé du verdict, le fils aîné de Christine Rivière a bruyamment manifesté sa désapprobation. Il a quitté la salle. Christine Rivière, elle, est restée de marbre. Elle s'attendait peut-être à une telle peine. Pendant les 2 jours de procès, elle n'a donné aucune information sur les conditions de ses déplacements en Syrie, sur les personnes rencontrées sur place. Un manque de coopération qui a excédé la présidente et parfois même son propre avocat qui semblait à certains moments désemparé face à l'attitude de sa cliente. Dans ce dossier, il n'est pas question de l'amour entre une mère et son fils, a affirmé le procureur Guillaume Michelin. Il n'est pas question d'amour, il est question de fusion. Nous n'avons pas en face de nous une mère courage. Une bonne mère aurait retenu son fils. Celle-ci l'a encouragé à tous les excès. Le djihadisme n'est que le prétexte pour Christine Rivière pour entretenir la fusion avec son fils, a conclu le procureur. Reste une question, pour quelle raison Christine Rivière se tait? Est-elle inconsciente de la situation? Cherche-t-elle à se sacrifier pour protéger son fils? Ou craint-elle d'éventuelles représailles? Pour l'instant, son avocat ne sait pas si elle va faire appel.
Les précisions d'Antoine Marette. Enfin, concernant l'attentat de Marseille, les 5 personnes qui étaient en garde à vue après la mort des 2 jeunes femmes dimanche dernier viennent d'être levées. Il n'y a pas d'éléments incriminants à ce stade, d'après nos confrères de France Info. Quel avenir pour le macronisme en tant que courant politique et mouvement? Après l'élection du président, La République En Marche dispose d'un vivier nombreux d'adhérents, mais le mouvement manque de structure. Ses cadres tentent donc d'y remédier avec une échéance fixée le 18 novembre prochain, date qui verra notamment l'élection d'un délégué général. Mais le dispositif est toutefois loin d'être abouti, Stéphane Robert.
Ce n'est pas facile car ils font tout à l'envers, les marcheurs. Un parti politique, dans sa forme traditionnelle, est une machine qui permet de définir un panel d'idées et de valeurs et ensuite de sélectionner des candidats qui se présentent aux élections. Là, rien de tout ça, il y a d'abord eu l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, puis dans la foulée, celle de 313 députés à l'Assemblée. Et c'est donc aujourd'hui, 5 mois après ces élections, que le parti s'interroge. Il se demande qui il est, où il va. Qu'est-ce qui fait que tous ces adhérents ont envie d'aller dans la même direction? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse, voire des réponses contradictoires. Il n'est qu'à voir l'avis divergent de 2 des 3 membres de la direction collégiale, Arnaud Leroy et Barry Zakhiari, sur le rôle du futur secrétaire général d'En Marche, qui sera élu le 18 novembre prochain.
La direction que nous sommes collégiale pense qu'il faut que le mouvement ait une tête identifié dans les prochaines années.
Moi, à titre personnel, je pense qu'on n'est pas au PS. Donc, le fondateur est là, il est jeune. Et je pense que le délégué général aura plus un rôle de représentation qu'un rôle d'incarnation pour moi.
Voilà, pour le député Arnaud Leroy, il faudra une figure qui incarne le parti. Mais pour la sénatrice Barry Zakhiari, elle existe déjà, cette figure, c'est Emmanuel Macron. Même chose concernant les valeurs auxquelles le parti se réfère, on est là pour les défendre, ces valeurs, affirment en cœur les 110 référents territoriaux qui viennent d'être désignés. Seulement, on ne sait pas vraiment de quelles valeurs on parle, puisqu'il est prévu de consulter les adhérents pour élaborer une charte qui doit permettre de les déterminer. Alors on peut se demander ce qui fait, au bout du compte, l'identité de ce mouvement. Pour l'instant, c'est un amalgame composite de 383 000 adhérents qui ont pour maître mot le pragmatisme et l'efficacité, et pour seul référent Emmanuel Macron. Autrement dit, ils ne sont pour l'instant que des marcheurs qui n'ont pas d'autre but que de marcher dans la direction que leur indiquera leur président.
Analyse signée Stéphane Robert. Emmanuel Macron qui tente de rassurer les professionnels du bâtiment. Il s'est exprimé lors d'un congrès de la filière BTP à Paris cet après-midi. La réforme du prêt à taux zéro va être atténuée, annonce-t-il. Le principal dispositif d'aide à l'accession à la propriété devrait finalement être prolongé dans les zones rurales, mais avec un plafond réduit. Le chef de l'État qui promet également des discussions sur l'évolution du périmètre de crédit d'impôt pour la transition énergétique. Le député La République En Marche et mathématicien Cédric Villani va être chargé d'une mission sur l'indépendance et l'objectivité des agences européennes dans le secteur scientifique. Nomination en lien avec le dossier de l'herbicide glyphosate. Herbicide dont le renouvellement de la licence dans l'Union européenne fait l'objet d'un bras de fer à Bruxelles. Son autorisation actuelle s'achèvera à la fin du mois de décembre. Drive the Future, c'est le nom du plan du groupe international Renault, du nouveau plan. Un plan qui va s'étaler sur 6 ans et qui vise à augmenter la production de 44% à 5 millions d'unités. Pour réaliser cet objectif, le groupe va accélérer sa croissance dans les pays émergents. Isabelle Raymond.
L'objectif est ambitieux puisque Carlos Ghosn a prévu de vendre 5 millions de véhicules par an à l'horizon 2022, ce qui représente une hausse de plus de 40%. Et pour y parvenir, il faut gagner des parts de marché hors d'Europe, en Inde notamment, où la voiture à bas coût commercialisée sous le nom de Kwid rencontre un franc succès. En Chine, évidemment, premier marché mondial, mais qui fait quasiment figure de terre vierge pour le constructeur français qui vient à peine de s'y installer. Et puis la Russie, c'est le pari de Renault qui a racheté la marque historique Lada et espère maintenant tirer profit d'une reprise économique balbutiante. Côté modèle, il y a beaucoup d'attentes autour de l'essor du véhicule électrique, un domaine où Renault a une longueur d'avance sur ses concurrents. Carlos Ghosn.
Nous avons plutôt mangé notre pain noir au cours des dernières années, puisque c'était des années d'investissement, de développement. Nous faisions des séries qui étaient plutôt limitées compte tenu du fait qu'il y avait très peu de volume de vente. Actuellement, les marchés sont en train de se réveiller par rapport à l'électrique, en Europe, en Chine, où nous allons passer à l'offensive. Donc nous passons à une phase beaucoup plus enthousiasmante en matière de voitures électriques, puisque nous avons fait l'investissement technique, nous avons fait les investissements industriels, et maintenant nous allons pouvoir occuper le terrain sur les marchés.
8 modèles totalement électriques doivent être proposés aux clients ces 5 prochaines années, ainsi que 12 modèles hybrides électrifiés, dont la Clio notamment.
Merci Isabelle Raymond. Ce qui nous amène à l'enquête du journal de 18h avec une guerre économique aux batteries au lithium qui est en train de se dessiner. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir Anne.
L'exemple de Renault le montre, le marché est en pleine expansion et donc très convoité.
Oui, parce qu'avec l'essor de la voiture électrique, le marché se chiffrera en centaines de milliards de dollars. Or aujourd'hui, un seul pays domine la production, c'est la Chine. Elle a ses propres mines de lithium et elle a construit de nombreuses usines. Ce qui veut dire à Rajesh Varma, conseiller en investissement chez DNCA Finance à Paris, que c'est maintenant un acteur incontournable.
La Chine, c'est loin devant la Corée et Japon. Imaginons que maintenant en Chine, on construit à peu près 100 gigawatts de batteries par an. En Corée, c'est 16. En Japon, c'est même pas 5. La Chine va prendre 90% de la vente des voitures électriques en Chine. Ce ne sera pas moins de centaines de milliards d'euros.
Et du coup, la Chine fait la pluie et le beau temps et aussi les prix auprès des constructeurs, y compris européens.
Sauf qu'un autre acteur s'impose peu à peu sur ce créneau, c'est la firme américaine Tesla, avec à sa tête un certain Elon Musk.
Oui, Musk, c'est l'inventeur du système de paiement numérique PayPal, un visionnaire qui veut aller sur Mars. En 10 ans, il a produit 3 modèles de voitures haut de gamme qui l'ont positionné comme un concurrent sérieux. Une ascension fulgurante, résumée par Olivier Ken, fund manager chez Ecofi.
En 2008, il démarre avec son Roadster. C'est un succès d'estime, mais les industriels rigolent. En 2012, il lance le modèle S. Alors là, les constructeurs commencent à regarder. Arrive le modèle X. Là encore, on est dans le haut de gamme, puisqu'on est au-dessus des 100 000 dollars. Donc là, les constructeurs commencent à regarder d'un peu plus près en disant « Ah, on a peut-être un concurrent qui arrive ». Et puis alors là, en 2017, il présente le modèle 3, modèle mass market, à 30 000 dollars. Alors là, les constructeurs non seulement regardent de très près et réagissent. Donc Chevrolet annonce la Bolt. Volkswagen, BMW, Daimler, tout le monde lance sa feuille de route.
Sauf que Tesla a un talon d'Achille, 1 milliard de dollars perdus cette année, mais l'entreprise pèse toujours plus que General Motors en bourse, ce qui veut dire que les investisseurs misent quand même sur son succès.
Et dans ce jeu, Philippe Reltien, que pèse le français Vincent Bolloré? Lui aussi a investi dans ces fameuses batteries, non?
Oui, dans l'usine créée à Quimper pour équiper sa flotte de véhicules d'autopartage Autolib et des autobus. Mais dans ce jeu, c'est un tout petit acteur et Autolib affiche lui aussi près de 100 millions de pertes. Beaucoup doutent de son succès. C'est pas le cas de Didier Marginet, directeur de Blue Solutions, la boîte à idées de Bolloré, même s'il a conscience qu'il n'y arrivera pas tout seul.
On est au début de l'amorçage de la pompe et rien ne nous interdira dans le futur de s'allier pour avoir des usines beaucoup plus grosses.
Alors mon petit doigt me dit que vous allez aller fabriquer en Chine.
Si vous voulez être un acteur global dans le domaine des batteries, vous allez être un jour ou l'autre mondial. Vous ne pouvez pas en effet imaginer que vous allez rester avec un gigawattheure ou deux gigawattheures et que d'ici 10 ans, vous allez pouvoir être crédible.
Donc pour l'instant, Bolloré est loin des autres, mais cette faiblesse de la France, elle est d'autant plus étonnante que c'est un Français qui a inventé la batterie au lithium.
Oui, la première, celle qui équipe l'Autolib, on le sait à peine, il s'appelle Michel Armand, chercheur au CNRS, et il se souvient qu'au début des années 2000, personne ne croyait à son invention chez les constructeurs français. Du coup, la France a vendu ses brevets au Canada et perdu sa place dans cette course dominée par les Chinois.
Merci Philippe Reltien, le fabuleux marché des batteries électriques. Votre enquête est à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo, demain matin samedi 7 octobre, un temps globalement ensoleillé, juste quelques passages nuageux dans les Hauts-de-France et la Normandie et les températures 9 à Grenoble, 11 à Strasbourg, 12 à Cherbourg, 13 à Lille et Lyon et jusqu'à 20 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique c'était Jean Frédérix. Prochaine édition 22h, Benoît Bouscarel reviendra sur la conférence de presse du procureur Molins, le procureur de Paris qui est en train de s'exprimer sur l'affaire des bonbonnes de gaz à Paris et qui indique que les raisons du choix de la cible restent toujours inconnues à cette heure.